Salut et bienvenue à Europe & Rose sur Radio Fadjet. Cette semaine, une émission pleine de culture. Nous vous présenterons un groupe de musique allemand très francophile. La consuelle d'Estonie, Anansi, répondra aux questions d'Isabelle. On vous dira pourquoi Lille et Luxembourg sont de vraies capitales européennes. Et finalement, comment la Saint-Valentin est fêtée en Europe. Contrairement aux habitudes, on ne démarrera pas avec le flash d'info, ne vous faites pas de soucis, notre présentatrice n'a pas été enlevée pendant une de ses missions, elle reviendra la semaine prochaine et vous racontera ce qui l'a fait rester loin de son public chéri. Vous écoutez alors tout de suite Amélie qui vous présente le groupe Wir sind Helden.
Wir sind Helden, traduction Nous sommes des héros, est un groupe de pop-rock allemand originaire de Berlin et Hambourg. On peut dire que les Helden, les héros, comme on les appelle souvent, font partie de la nouvelle scène rock allemande. Le fait de chanter en allemand, et non en anglais, est une caractéristique importante de cette nouvelle scène. Ils définissent eux-mêmes leur musique comme un mélange de 28% de sons synthétisés, 34% de punk et 38% de pop. On a compris, ils aiment bien l'humour. D'ailleurs, leurs textes sont souvent drôles et les paroles très réalistes, car souvent inspirées d'expériences personnelles. Bonne nouvelle pour les non-germanophones, le groupe, dont trois membres parlent le français, veut conquérir le public de ce côté-ci du Rhin. Les Helden ont enregistré trois de leurs titres en version française, notamment Aurélie, qu'on va écouter plus tard. C'est l'histoire d'une Française qui s'appelle, on l'aura compris, Aurélie. Aurélie vit à Berlin en Allemagne, et elle se voit confrontée à des différences culturelles insurmontables. À l'étranger, les Françaises ont la réputation d'être très jolies, et Aurélie ne fait pas exception. Je cite. Aurélie, son accent est très charmant, même quand elle se tait, on la trouve belle, ses cheveux sont comme une mer de blé, et même avec la boule à Z, tous lui mangeraient dans la main. Malgré cela, elle a l'impression que personne ne la drague. La chanteuse lui explique alors qu'en Allemagne, on drague d'une manière plus subtile qu'en France. Aurélie ne comprend pas. La petite Française ne se rend pas compte que les Allemands, même les plus mignons, l'apprécient beaucoup, mais qu'ils ne déclarent pas leur flamme de la même manière. La chanteuse explique que quand il lui parle de foot, c'est pour la draguer. Est-ce que parler de foot est subtil pour accoster une fille? C'est une autre question. Dans le dernier couplet, Aurélie demande à la chanteuse comment les Allemands arrivent à se reproduire si, je cite, les fleurs et les abeilles ne font rien d'autre à Berlin que se sourire bêtement. C'est tout à fait d'actualité, car les Allemands n'ont que très peu d'enfants et le pays fait face à un déclin démographique important, contrairement à la France, qui est le pays le plus fécond d'Europe. Et oui, en France, on se fait peut-être siffler dans la rue, mais au moins, on fait des bébés. Petit potin au passage, la chanteuse de Wir sind Helden Judith et le batteur Paul Arroy sont mariés depuis 2006 et ont déjà un enfant. C'est bien la preuve que malgré tous ces problèmes de communication, les Allemands savent se reproduire, non?
Voilà donc la chanson dont Amélie vous a parlé, Wir sind Helden avec Aurélie.
Aurélie's Akzent ist ohne Frage sehr charmant. Auch wenn sie schweigt, wird sie als wunderbar erkannt. Sie braucht mit Reizen nicht zu geizen, denn ihr Haar ist mehr und Weizen noch mit.
Irgendwo zu zweit. Oh, Aurélie, so fait trop de soucis. Les hommes t'adorent, mais toi, tu ne les vois pas. Écoute Dieu, Olivier, comment ça?
So einfach ist das eben nicht. Hier man gewahrt, so ein ganz anderes Gewicht. All die Jungs zu deinen Füßen wollen sie küssen, auch die Süßen. Aber du merkst das nicht, wenn er dabei vom Fußball spricht. Ach, Aurelie, du sagst, ich solle dir erklären, wie in aller Welt sich die Deutschen dann vermehren.
L'Estonie a sa propre consul à Nancy. Qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Et comment est-ce qu'on devient consul? Isabelle, a les réponses.
Je suis devenue consul d'Estonie sur demande initiale du gouvernement estonien qui souhaitait avoir une représentation diplomatique à Nancy pour l'Est de la France, à la fois Lorraine et Alsace, qui, par conséquent, est passée par son ambassadeur à Paris, qui a fait se connaître aux autorités nancéennes le profil de candidat recherché par l'Estonie. En l'occurrence, l'Estonie cherchait une personne qui soit juriste, qui ait plus de 40 ans et qui connaisse très bien le milieu politique, économique, culturel, local de la région. C'est un rôle qui est assez varié. Ça consiste à protéger en France les intérêts de l'Estonie et de ses ressortissants, en leur portant secours en cas de problème, qu'il s'agisse de problèmes médicaux, de problèmes financiers, de problèmes juridiques. Ça peut consister même à assurer leur défense devant un tribunal. Deuxième aspect du rôle d'un consul, c'est d'agir en qualité d'officier d'état civil, de délivrer des passeports, des visas, des titres de retour. Et le troisième aspect, qui est peut-être le plus intéressant, bien sûr, c'est de favoriser le développement entre l'Estonie et la France sur le plan des relations commerciales, des relations économiques, des relations culturelles et des relations scientifiques. Le but est de faire connaître l'Estonie en France et de faire connaître la France en Estonie. Alors, avant d'être nommée consul, je suis allée en Estonie, bien sûr, où j'ai fait le tour de tous les services du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir mettre au point mon rôle ici. J'ai visité donc l'Estonie, c'est un petit pays, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est une région de forêts, de lacs. Et puis il y a une très belle capitale qui est Tallinn, qui a une vieille ville qui est inscrite au patrimoine de l'UNESCO, qui est splendide.
Vous partagez votre métier d'avocat avec votre métier de consul?
Mais c'est passionnant, parce que dans les deux cas, la parole sert beaucoup. La force de conviction est très importante dans les deux cas, et c'est ce qui m'a plu dans l'acceptation de cette tâche. Alors, j'ai quelques visites, pas très nombreuses pour l'instant, parce que l'Estonie est quand même entrée depuis peu dans la CE, donc nous en sommes au début. Alors, l'Estonie pourra pleinement s'intégrer dans l'Union européenne quand elle pourra enfin accéder à l'euro, qu'on lui refuse l'entrée dans l'euro, alors que par ailleurs, si elle a 4% d'inflation, il faut savoir qu'elle a un taux de croissance, elle, qui est de 11,6% pour l'année 2006. Alors, ceci corrige pour le moins cela. Pour le reste, l'Estonie peut nous apporter beaucoup de choses. Il faut savoir que l'Estonie est un pays qui est très en avance, il faut pas avoir peur de le dire, sur nous dans le domaine informatique, notamment. L'Estonie, si on veut comparer avec un autre pays que les Français connaissent peut-être davantage, c'est très comparable à la Finlande au niveau du développement. Alors, la barrière, évidemment, c'est la langue. Parce que la langue estonienne fait partie des langues les plus difficiles à apprendre au monde, puisque c'est un mélange de finnois et de hongrois. Donc les Estoniens parlent pratiquement tous anglais. donc peuvent venir dans les pays d'Europe grâce à l'anglais. Le français commence un petit peu à se développer. Encore une fois, on en est au début. Et il commence à y avoir un certain nombre d'étudiants estoniens, plus en Alsace qu'en Lorraine d'ailleurs, mais enfin, ça commence.
Voilà une autre chanson du groupe Wir sind Helden. Cette fois-ci, elle s'appelle Helden. L'Europe a une capitale, mais cette capitale, elle change toutes les années. En 2004, c'était Lille, et en 2007, c'est Luxembourg. Tout ça ne fait pas beaucoup de sens pour vous ? Maxime vous aidera.
Une capitale européenne de la culture, à quoi ça sert?
Cette année, il y a une originalité puisque l'événement concerne toute la grande région. Alors, qui est impliqué?
Là, il y a 5 régions qui participent à l'année culturelle. Donc, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre, la Lorraine et la Wallonie. Et sur proposition du Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, lors d'une présentation de la capitale culturelle, a été proposé donc le fait d'intégrer un peu nos voisins pour permettre un peu cet échange, et surtout dans ce contexte-ci qui fait que c'est assez facile en une heure d'être dans une autre région.
Quel genre de manifestations sont prévues?
On a un peu de tout. On a à notre disposition 4 lieux. On est sur le lieu des Rotondes, ici à Luxembourg, qui est un ancien garage de train, et qui a été restauré en lieu culturel. Et on a mis sur pied toute une programmation culturelle pendant toute l'année. On a 2 lieux d'exposition au sud du pays, à Dudelange et à Espelwal, qui sont des friches industrielles, qui vont être rénovées, qui vont accueillir des expositions. Depuis le début de l'année, on a commencé surtout avec des grandes expositions d'art moderne. Il y avait la cérémonie d'ouverture, on a eu la fête à Saint-Sylvestre. Hier encore, on avait un concert de musique électronique.
Et pour se rendre à ces manifestations, est-ce que c'est gratuit, payant?
Ça dépend de l'événement. Il y a des expositions qui sont coûtantes, d'autres qui sont gratuites. Il y a des manifestations dans les villes.
Quelle sera la prochaine grande manifestation?
Fin avril, on aura une fête de printemps, un parcours d'art dans la ville qui va commencer, une autre friche industrielle qui va ouvrir et qui va héberger des jeunes artistes qui ont des contacts avec les artistes de Nancy.
Est-ce que vous êtes inspiré de ce qui a été fait dans les précédentes capitales de la culture européenne?
Il y avait quelques capitales culturelles maintenant dans les années passées où on avait un peu, qu'on avait visité, où on est allé voir, surtout Lille qui avait eu un grand retentissement en France. On va un peu toujours voir ce qui fonctionne bien, ce qui se fonctionne moins bien. Il y avait une critique qui disait que les jeunes n'étaient pas assez impliqués dans le programme. C'est bien pour ça que nous, on a créé des projets spécifiquement à eux pour justement un peu inviter les jeunes à participer toute l'année culturelle.
Et une autre chanson de notre groupe allemand, Wir sind Helden, elle s'appelle Gekommen, und bleiben.
Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben. Wir sind perfekt am Fleck. Gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg. Dieser Fleck hat in der Hose, ich kann nicht mehr rausbleiben. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben. Wir sind perfekt am Fleck. Gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg.
Ist dieser Fleck jetzt in der Hose, ist er nicht mehr auszuhalten. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Schau, the end is near, now bitte face your final curtain. Oh, wir sind schlau, wir bleiben hier für die Gesichter, die empörten. Diese Geister singen schief und sind nicht einfach auszutreiben.
Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann geht den Scheiben.
Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg.
Wir gehen nicht mehr weg.
Wir kommen zu bleiben. Wir sind perfekt am Fleck.
wir sind gekommen.
Nous continuons le tour des capitales européennes avec Marine et Lille en 2004, toujours à Europe & Roll sur Radio Fadjet.
Bonjour Natalia, nous avons décidé de t'interviewer sur Lille, la capitale européenne de la culture, comme tu es lilloise. Et donc notre première question est, comment cette manifestation culturelle s'est déroulée ?
Alors il y a eu plusieurs événements qui ont marqué le déroulement de Lille 2004. Donc surtout l'ouverture avec le bal blanc, qui était une grande manifestation où tout le monde devait s'habiller en blanc. Il y avait énormément de gens dans toutes les rues, de la musique pendant toute la nuit, des spectacles à chaque coin de rue, des groupes de musique. On a eu aussi donc le bal de clôture pour finaliser toutes ces émotions et toute cette manifestation. Et alors, plus concrètement, il y avait des maisons folies. Donc des maisons folies, ce sont des maisons où il y avait différentes manifestations culturelles, par exemple des expositions de différents artistes du monde entier. C'était des expositions, des spectacles de danse, des concerts, des manifestations artistiques avec par exemple des grandes soirées tango sur la grande place. Et donc ce qu'il faut spécifier, c'est que c'était à portée internationale, c'était pas seulement européen mais également international, et qu'au cours de Lille 2004, il y a eu une année, la moitié de l'année consacrée à la Pologne et l'autre à la Chine.
D'accord. Comment cette manifestation a été vécue par les habitants de l'agglomération ?
Alors, tout le monde était très enthousiaste, très fier surtout de pouvoir accueillir toutes ces manifestations. Tout le monde était très content, on a pu beaucoup échanger, partager avec des gens qui venaient justement du monde entier. Et donc les Lillois ont pu faire preuve de leur hospitalité légendaire, comme c'est très, très connu. Les gens du Nord ont peut-être pas le soleil dans le ciel, mais dans le cœur, comme on dit là-bas. Et voilà, il y a un cosmopolitisme qui était déjà très présent à Lille et qui s'est encore renforcé avec cette manifestation. Donc beaucoup d'ouverture d'esprit et de découverte. Voilà.
Maintenant, quels sont les vestiges de cette manifestation ?
On peut dire qu'il y a une sorte de tradition qui est née de Lille 2004 avec l'accomplissement aujourd'hui de Lille 3000. C'est-à-dire Lille 3000 sur une année, d'abord sur l'année de l'Inde, avec donc cette année en 2006 et en 2007, donc 14 octobre 2006 au 14 janvier 2007, la présence indienne, et aussi donc le projet de faire tous les deux ans des manifestations culturelles en rapport avec différents pays. Donc en 2008, ce serait pour les pays d'Europe orientale. Et ce qu'on peut voir encore, c'est les vestiges concrets. Par exemple, il y a une rue à Lille qui s'appelle la rue Fédarbe, qui est assez représentative de chaque manifestation. Par exemple, là, avec la manifestation sur l'Inde, il y a des énormes éléphants qui sont illuminés avec des lumières indiennes, des façades à l'image des palais indiens. Enfin, c'est vraiment très joli. Et puis, donc, c'est assez représentatif de ces manifestations-là. Voilà.
La dernière chanson aussi est de Birgit Hayden.
Ans Fenster, komm her zu mir, siehst du da drüben gleich dahinterm Wellblechzaun, da drüben auf dem Platz, vor all die haben sie unser Abbild in Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall Blumen und Girlanden, halb verknüpft, sieht so aus, als
Beton und Seligkeit. Hol den
espérons bien sûr que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Si au contraire, vous la trouvez plutôt ridicule, écoutez Cédric qui vous racontera quelle forme cette folie peut prendre dans les autres pays d'Europe.
Le 14 février est l'occasion pour tous les Valentins et les Valentines de fêter leur amour à travers le monde. Bien que la Saint-Valentin trouve ses origines dans l'Antiquité romaine, elle est une fête traditionnelle des pays anglo-saxons, importée par les GI américains en 1945, et elle connut un véritable développement en France dans les années 80. Aujourd'hui, les coutumes sont diverses à travers l'Europe, même si on retrouve presque partout les traditionnelles fleurs et cartes de vœux. À ce titre, les Français seraient les romantiques les plus branchés d'Europe, avec près d'un million de cartes virtuelles envoyées cette année, devançant les Allemands, les Espagnols et les Italiens. Diverses traditions persistent à travers l'Europe en ce 14 février. Au Portugal, existent les mouchoirs des amoureux. Il s'agit de mouchoirs brodés par les femmes et offerts à leurs maris, afin qu'ils les emportent à la guerre ou lorsqu'ils émigrent. À Rome, les adolescents se promettent l'amour éternel en accrochant un cadenas au pont Milvio et en jetant la clé dans le Tibre. Une légende inspirée de l'Antiquité est reprise par un écrivain à la mode, Federico Moccia. Quant aux Pays-Bas, premier exportateur horticole au monde, ce sont bien sûr les marchés aux fleurs qui ouvrent les bras aux amoureux et aux touristes. Dans le nord de l'Autriche, dans la ville de Saint-Valentin, des défilés animent les rues. En Angleterre, on s'échange des cœurs en carton et le couple Roméo et Juliette reste l'illustration favorite sur les cartes postales. La Saint-Valentin est aussi un jour florissant pour les commerces en tout genre. En Chine, le secteur de la chirurgie esthétique voit son activité augmenter de 30%. Aux États-Unis, les détectives privés se frottent les mains. Mais en Europe, les fleurs restent le secteur privilégié. Bien que la rose domine partout en Europe, chaque pays a développé son symbole. Aux Pays-Bas, bien sûr, la tulipe est symbole d'amour, quelle que soit sa couleur. L'Angleterre a préféré la rose depuis la guerre civile qui opposa au XVe siècle les Lancaster, dont l'emblème était la rose rouge, et les partisans de York, dont l'emblème était la rose blanche. En Irlande, c'est bien sûr le fameux trèfle de Saint-Patrick, symbole de chance. La région bruxelloise a préféré l'iris jaune des marais. En Écosse, on retrouve le chardon, symbole de défense, et au Pays de Galles, on offre volontiers des jonquilles et même des poireaux. Dis-moi quelle fleur tu offres et je te dirai d'où tu viens.
On va devoir se quitter dans quelques instants, mais ça ne sera pas long. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission sur, entre autres, le Groenland et le cinéma européen sur lequel nous avons interviewé le directeur du Caméo. Retrouvez-nous donc le dimanche à 13h30, le lundi à 19h30 et minuit, le mardi à 12h30 ou retrouvez-nous sur notre site web europeandroid.free.fr. Salut! Et à la semaine prochaine.